Donc, je suis avec Frédéric de Frey et on va parler de Star Wars parce que nous on aime Star Wars. On aime surtout la première trilogie de l'époque.
76.
Voilà. On aime à peu près, mais moins forcément, la deuxième trilogie.
Alors, on est fan de Star Wars.
Mais c'est ça le pire, c'est ça, c'est que malgré tout on reste fan de Star Wars. On peut pas renier Star Wars. Star Wars ça reste magique. Mais bon, Star Wars c'est peut-être l'univers qu'on connaît le plus, qu'on adore le plus, et qu'on a le plus du truc à reprocher.
C'est vrai, c'est vrai. Oh, c'est ça qui fait de nous un peu des fans et des geeks un peu aussi, hein, ça c'est sûr. On aime bien critiquer ce qu'on aime sur ce genre de choses. Voilà, voilà. Donc bon, pourquoi est-ce qu'on aime les épisodes 4, 5 et 6 plus que les épisodes
en ce qu'on disait à l'instant, c'était que dans les 4, 5, 6, il y a vraiment ça parle de gens en marge de la société, ça parle de pirates de l'espace, de contrebandiers, de rebelles. Il y a un côté beaucoup plus fun à l'aventure que dans les 1, 2, 3 où ça parle de Jedi, espèce de moines, soldats.
Oui, c'est ça. Il y a vraiment une... En fait, dans les épisodes 4, 5, 6, on est vraiment à l'apogée d'une dictature. Une dictature donc à grande échelle, puisque bon, c'est la dictature de la galaxie, donc avec c'est vraiment une galaxie pourrie, c'est-à-dire que voilà, c'est d'ailleurs tout se passe dans les planètes qui sont à la frontière de la galaxie, donc vraiment dans la banlieue de la galaxie. C'est un état policier, il y a des soldats partout, les gens vivent dans la misère en permanence, et il n'y a pas de il y a que des contrebandiers, voilà, ça se vit sur du trafic, il y a de la mafia, etc. Donc c'est vraiment un univers qui est créé, mais où on a envie de rentrer.
Exactement, c'est plus attirant. Ouais. Quand un univers est comme ça, c'est beaucoup plus attirant, plus envie de vivre des aventures. C'est comme le Far West, tu vois.
Ouais,
alors que le Far West, on n'aimerait pas y vivre, mais en même temps, on aimerait bien y vivre parce que il y a du rêve.
C'est pas le côté lisse, en fait, que peuvent avoir les épisodes 1, 2 et 3. C'est vraiment, donc, mis à part, bon, on va pas revenir sur le côté tape à l'œil que peuvent avoir les épisodes 1, 2 et 3, parce que bon, c'est quand même assez basique. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que, c'est trop lisse, en fait, c'est trop, avec toutes les planètes, voilà, ou avec Coruscant, effectivement. Avec où on n'y croit pas trop, voilà, la planète avec,
ouais, elle a
avec
pas de cohérence, les immeubles sont trop grands, il y a trop, enfin c'est que du synthèse pour de la synthèse, il n'y a pas de vie vraiment crédible, quoi. Là où les planètes merbites de Tatooine, on y croyait un peu plus, la communauté, il y avait quelque chose qui paraissait plus vivant, quoi.
Exactement. Tandis que là, c'est vrai que dans les épisodes 1, 2 et 3, on rentre directement dans l'univers de l'élite de la galaxie, voilà, le Sénat, on a plus finalement l'impression
Moi, je dirais que c'est plus un péplum.
Voilà, exactement. Il y a plus la grandiloquence du péplum. Donc effectivement, le spectacle est appréciable. Mais bon, mis à part ça, c'est vrai que ça tient moins la route finalement qu'un péplum, parce que finalement, même au niveau du scénario, ça pêche beaucoup. C'est pas extrêmement inventif, c'est-à-dire que bon, ce qu'on pouvait vraiment apprécier dans les épisodes 4, 5, 6, c'est que finalement c'était extrêmement inventif, c'est-à-dire que voilà, c'était presque une école de cinéma, une école de science-fiction. La façon de rentrer en scène, ce qui a été gardé d'ailleurs dans les épisodes 1, 2 et 3, la façon, donc les premières images sont toujours très chocs, dans l'épisode 4, donc avec le croisement interstellaire qui passe au-dessus, qui n'en finit pas, voilà, donc on est vraiment soufflé, on est vraiment projeté dans le siège comme ça. Si vous avez la chance de les voir au cinéma, bien sûr. Et donc dans l'épisode 5, voilà, donc on rentre directement dans la bataille de Hoth, voilà, la planète des glaces, voilà, dans l'épisode 6, on voit le retour de l'étoile de la mort, enfin de l'étoile noire. Donc c'est vraiment. C'est vrai que dans les épisodes 1, 2 et 3, ils ont réussi à faire cette entrée en scène là, mais ce qui est très regrettable finalement, c'est que ça tient moins la route au niveau du scénario, au niveau de la cohésion des personnages, c'est pas extrêmement bien.
Disons que en tant que geek, c'est pas étonnant de dire que on préfère les épisodes 4, 5, 6, tout le monde est d'accord, mais essayons quand même, vu qu'on est quand même fan, qu'est-ce qui serait quand même bien, qu'est-ce qu'on aime bien, les épisodes 1, 2 et 3, quand même. Ouais. C'est-à-dire que malgré tous leurs défauts, et il y en a plein, et... mais qu'est-ce qu'on peut dire, quand même, on ne faut pas oublier que quand même...
Dans l'épisode 1, ce qu'on peut vraiment retenir, c'est déjà le plaisir de voir revenir Star Wars au cinéma. Voilà,
mais oui,
pas grand chose, mais bon, c'est déjà ça.
Mais ce plaisir, c'est les deux premières secondes, voilà. Tu vois le logo,
exactement. Mais ça, voilà, et ça dure pas si longtemps que ça. Mais bon, ce qu'on aime dans l'épisode 1, enfin, en tout cas, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup dans l'épisode 1, la scène de course de Pod Racers est quand même
elle est...
extrêmement bien faite. Vraiment, la scène à la baignure, hein, vraiment.
Elle est incroyable, cette scène.
Elle est vraiment...
Et pour le coup, il y a plein de trouvailles dans cette scène. Ouais. Plus que, évidemment, on voit le petit Anakin qui est pas du tout intéressant à regarder, mais tous les petits monstres dans leur pod et tout.
Non, c'est exactement ça. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on retrouve l'intérêt vraiment du Star Wars, c'est-à-dire voilà les personnages complètement atypiques, les extraterrestres complètement atypiques, et effectivement la mise en scène délire, voilà, de la course de Pod Racer. Ça, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment une scène qui est vraiment extrêmement bien faite. Ce qu'on peut reprocher dans l'épisode 1, malheureusement, c'est vraiment les deux Jedi. Moi, franchement, je n'ai aucune excuse pour les deux Jedi.
Deux excellents comédiens.
Deux excellents comédiens quand même. Ewan McGregor, bon, qui commençait à peine, hein, enfin pas vraiment, mais bon, qui commençait vraiment sa carrière avec Liam Neeson. Vraiment, on a vraiment l'impression qu'ils sont là, qu'ils s'emmerdent à jouer.
Mais tu sais quoi, j'ai vu une interview de Ewan McGregor, et il racontait après coup, il disait ouais, mais le jour où on l'a dit que faire Star Wars, il était tellement content sur le plateau, le premier jour, il était tellement content, et il a très vite déchanté, il s'est dit. Chier.
Ah mais c'est terrible.
Et on les voit. Hein.
On les voit vraiment. Maître, ça va pas du tout. Je ressens un grand trouble dans la force. Et le mec qui dit ah bah moi je sens rien. Et qu'est-ce que tu dis qu'on aille se prendre un café après, etc. C'est voilà, pas de problème.
Et en fait, c'est comme si, à l'instar du Cerdano, c'est comme si on avait imaginé le Cerdano où les personnages principaux seraient les elfes.
Ouais.
Ah, ça serait chiant. Hein.
Ah ouais, c'est clair.
Et là, c'est clair. Pareil. Les Jedi sont
c'est,
un peu les elfes.
C'est exactement ça. Ouais, c'est vraiment, on est les Jedi. Voilà, c'est la super force, ça machin. Tout est déjà acquis. En fait, finalement, en tout cas, c'est vrai que pour rentrer vraiment dans le truc, c'est que on s'attend quand même à ce qu'on va trouver quand on sait qu'il va y avoir que des Jedi et qu'ils ont déjà la force et que ça va bien, etc.
Ils n'ont pas de progression.
Il n'y a pas de progression.
C'est le premier, ce qui est génial, c'est que on a un personnage qui est vraiment qui commence comme fermier, qui finit comme sauveur de la galaxie pratiquement. Et après, dans l'épisode 5, il est un bon pilote, mais il est pas du tout un Jedi. Et à la fin de l'épisode 5, il croit finir comme Jedi, mais il pêche. Et à la fin, dans l'épisode 6, il est un Jedi. On a vraiment une progression.
Bien sûr.
Voilà quoi. On a un héros qui évolue avec le temps. Même Ben Solo a sa propre évolution aussi.
Bien sûr. C'est vrai. Et d'autant plus. Et c'est d'autant plus dommage que finalement il y avait vraiment, je pense au duel notamment, donc qui sont quand même des choses à garder dans les épisodes 1, 2 et 3, parce que les duels sont quand même extrêmement bien faits, mais d'un point de vue esthétique, d'un point de vue danse vraiment rythmique et scream, c'est vraiment très très bien fait. Mais finalement, ça n'empêche pas les duels des épisodes 4, 5 et 6 d'avoir beaucoup plus de, à part l'épisode 4, parce qu'on
vient. Il n'y a pas vraiment de duel.
Mais dans les épisodes 5 et 6, c'est vrai que le duel de l'épisode 5 entre Luke et Dark Vador, c'est vrai que on rentre vraiment dedans. Parce qu'il y a de l'émotion, il y a du vraiment.
Et finalement, dans le duel de l'épisode 5, il passe pas beaucoup de temps à se battre. Il passe beaucoup de temps à. Il lui parle derrière son dos, il disparaît, il le cherche, et tout est dans la tension en fait.
C'est très psychologique, c'est vraiment la tension. Et d'ailleurs, sans doute quelque chose sur lequel on pourra revenir. C'est vrai que là, pour le coup, peut-être que c'était parce que justement George Lucas a laissé le réalisateur, donc Erwin Kershner, faire tout le film. Et donc il a pas du tout cherché à contrôler vraiment comme il l'a fait sur les épisodes 4 et sur l'épisode 6. Il n'a pas du tout cherché à contrôler ce que faisait Erwin Kershner parce qu'il lui faisait totalement confiance. Et donc comme c'est un vrai réalisateur, mais c'est un réalisateur qui avait déjà de la bouteille, qui savait déjà ce qu'il faisait. C'est pour ça d'ailleurs que l'épisode 5 est vraiment si accrocheur, parce que c'est vrai que la cohésion des personnages, la mise en scène, le savoir chercher le bon mot pour le savoir chercher le bon mot pour chaque acteur à tel moment, la relation entre Leia et Han Solo qui en fait vraiment ont l'attitude des acteurs des comédies romantiques des années 50-60 se cherchent, c'est vraiment extrêmement bien fait. On sent vraiment la patte d'un grand réalisateur. Idem pour la bataille de Hoth, hein, qui est vraiment excellente. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Et puis bon, bah aussi admettre bon voilà que la musique aussi, bon, voilà, la meilleure partition, pareil, hein, c'est vraiment l'épisode 5, hein, c'est pareil.
Et le thème de Yoda.
Voilà, l'apparition du thème de Yoda, l'apparition du.
Le thème le plus connu de Star Wars n'apparaît
pas dans celui-là. Exactement. Le thème de la marche impériale apparaît bel et bien dans l'épisode 5. Donc c'est vrai que ça en fait vraiment un épisode vraiment excellent. Et mis à part le fait que, enfin moi, du moins, mis à part le fait que je suis fan de Star Wars, il faut quand même le dire, c'est un très bon film. C'est vraiment un très bon film.
Ce qui n'est pas le cas
forcément des autres, mais ça, c'est vraiment d'un point de vue cinématographique, c'est un très bon film.
Il y a plusieurs niveaux. Il y a mauvais Star Wars, bon Star Wars et bon film.
Et voilà, exactement. Non, c'est vraiment ça. C'est vraiment tout à fait ça. Et vraiment, pour le coup, c'est vrai que l'épisode 5, c'est vraiment un très bon film. Après, pour reparler des choses, pour recadrer dans les choses.
J'essaye de me dire, sur Internet, tout le monde descend l'épisode 1, 2, 3, il y a tellement de trucs qui vont pas, qui sont pas cohérents, qui sont décevants. Mais je suis curieux de voir quand même, qu'est-ce qu'on peut en tirer de bien, tu vois.
Mais vraiment, ce qu'on peut en tirer de bien, c'est. Donc, dans l'épisode 1, vraiment, donc voilà, on a dit le duel avec Darth Maul est vraiment très attrayant.
Tout le monde retient Darth Maul, qui est un personnage en soi qui n'a aucune substance, mais qui est tellement charismatique.
Non, c'est vrai.
Qui meurt de façon débile, et c'est tellement dommage. Mais en soi, son personnage, il est, pour le coup, c'est une bonne création.
Ah oui, le personnage de Darth Maul est une bonne création. Il est attrayant, il est mystérieux, donc on sait pas trop où le placer. Et en fait, justement, moi, en tout cas, le réflexe que j'avais eu quand j'avais vu l'épisode 1, c'est vraiment, je me disais, mais le résultat, c'est quoi un Sith, c'est quoi vraiment Darth Maul, d'où il vient, etc. Bon, on n'a pas forcément eu les réponses, mais c'est vrai qu'on était impatients de savoir ce que c'était vraiment un Sith, ce que c'était vraiment, parce qu'on nous dit, exactement. Donc, c'est pour ça qu'il avait un côté très attrayant.
Dans l'épisode 1, ouais, on peut retenir donc les podresseurs et le duel avec Darth Maul.
Le duel avec Darth Maul.
C'est vraiment les. Le sentiment qu'on a au début de réentendre la musique et tout ça,
exactement.
Après tout le reste, disons que moi ce que je trouve hallucinant dans l'épisode 1, c'est que l'épisode 1 c'est un personnage. C'est un film qui sert pas à grand. Dans l'intrigue de Star Wars, il sert juste. C'est toute l'intrigue qui est sur les trucs, mais c'est dur à retenir, même nous on n'arrive pas à retenir. La fédération du commerce.
La fédération du commerce, avec le vice-roi Gunray.
Tout le film est une diversion pour que Palpatine passe. Exactement. Et encore, il passe de député à chancelier.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et
c'est vrai que ça fait ça. En fait, ça pèse pas lourd. Moi, je considère vraiment que ça pèse pas lourd. Disons que. En fait, on a quand même du mal à saisir. En fait, c'est vrai
Disons que le problème du épisode 1, c'est une préquelle à la préquelle à l'intrigue principale.
Exactement.
Sur la chute d'Anakin, qui est le seul truc qui a intéressé les gens. Exactement. À cette époque-là. Donc c'est une sorte d'intro, de prologue. Et il se passe rien.
Et non. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que nous, on aurait adoré l'épisode 1. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Bon, on peut laisser de côté l'épisode 1, je crois que d'un avis consensuel, je crois vraiment qu'on va même pas parler de Jar Jar Binks. On va même pas parler de Jar Jar Binks, donc on va mettre de côté l'épisode 1. Et on va passer, donc, pour le coup, à l'épisode 2, qui est quand même à mon avis, de bien meilleure qualité.
Oui, c'est là où tout de suite on reprend courage, on reprend espoir dans la trilogie. Dans l'épisode 2, disons que L'épisode 2, je pense, c'est celui qui a le plus mal vieilli quand même. Mm-hmm. Parce que c'était, le premier Star Wars fait en HD, les premiers films en HD, et les spéciaux, les intégrations.
C'est possible, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me fait peur. Moi, je pense qu'au contraire, c'est celui qui va le mieux survivre dans les épisodes 1, 2 et 3. Parce que je pense vraiment que c'est là où on trouve vraiment les ingrédients de Star Wars, et je crois vraiment que là moi, à beaucoup de moments dans l'épisode 2, j'ai été satisfait des ingrédients qu'il a apportés, de la inévitablement on en reparle, voilà, de savoir oui, mais en même temps, voilà, donc vous attendiez du Star Wars. Oui, on attendait du Star Wars, mais en même temps, c'est vrai que le fait de rien de faire une préquelle, c'est qu'on attendait, on attend de voir comment il va expliquer ce qu'on connaît déjà dans l'épisode 4, 5 et 6. Et c'est vrai que des scènes qui sont, donc pour reparler, des choses qui sont extrêmement bien faites. La poursuite dans Coruscant au début, exactement. Ça, c'est vraiment bien fait. On peut le dire. Voilà, c'est vraiment une bonne scène de cinéma. Et notamment la fin. Donc ça, quand ça se termine, voilà. Donc avec le quand on hésite à savoir qui va attaquer, donc qui va se faire attaquer par le sniper dans le bar, on pense que c'est Anakin qui va se faire attaquer, mais c'est Obi-Wan qui se fait attaquer. Bon, ça paraît idiot, mais en même temps on y croit, on est surpris. Qu'est-ce qui est vraiment bien fait, il y a une ambiance générale qui est lourde,
voilà, qui est très pesante pendant tout le film.
Exactement.
Qui est assez intéressant, qui se résume à la fin où tout est censé être résolu, et tu vois Yoda qui dit pas du tout, ça va être la grosse merde. Et ça, il y a une bonne montée en tension à la fin qui se termine sur le, où en fait tu te rends compte. Et donc le problème du 2, c'est que en gros, ce que je trouve très con, c'est que les Jedi sont très cons en général dans le 2. C'est qu'en gros, ils voient rien venir.
Ouais.
Toi, tu vois le truc venir, tu vois Palpatine en train de faire ses combines. Parce que tu sais la suite, donc tu sais que c'est lui le méchant, et tu vois comment il arnaque les Jedi. Et comment il arrive finalement à commander des clones, une armée clone, et les Jedi ils disent ok d'accord, on lui donne des pleins pouvoirs, ok d'accord, mais bon, faudra nous les rendre un moment. Et à la fin, ça se termine sur tu vois les Stormtroopers qui disent ben voilà, c'est l'Empire qui est là, l'Empire est devant eux, ils le voient même pas.
Et
autant d'un point de vue historique, et toi-même, tu as fait des études d'histoire, tu es très calé là-dessus, et je suis persuadé que pour toi ça paraît quand même cohérent, mais c'est vrai que c'est dur à accepter parce que quand t'as pas vu de cinématographique, tu te dis mais les mecs ils sont trop cons.
Ah ouais, ils sont non mais vraiment. Disons que à la limite ça c'est quelque chose qu'on peut presque oublier. Enfin moi du moins que j'arrive un peu à oublier, parce que il y a des choses quand même qui sont très esthétiques. Notamment le passage, donc la dernière scène effectivement, où donc c'est la montée en puissance effectivement de l'empereur, enfin du futur empereur, donc où tu le vois qui est sur le balcon, donc c'est l'avant dernière scène si je me trompe pas, où tu le vois sur le balcon en fait dans Coruscant, et il regarde en fait les clones donc rentre donc faire des manœuvres devant les futurs croiseurs interstellaires, voilà. Et tu les vois décoller, etc. Ça, c'est vraiment excellent, parce qu'en fait, c'est très bien fait, c'est très bien filmé, il y a une vraie présence, et on entend à ce moment-là le thème de la marche impériale, voilà, qu'on n'avait pas entendu depuis l'épisode 6. Et donc effectivement, on a vraiment les poils au garde à vous, parce que c'est vrai qu'on se dit, waouh, bon sang, ça c'est du bon savoir, parce que c'est ça que,
mais
ça c'est vraiment excellent.
C'est
la fin du film, mais c'est vrai qu'il y a une structure dans l'épisode 2 qui est attrayante. Mis à part, malheureusement, la structure, en fait, je ne reproche pas grand chose à la structure, en fait, du complot de Palpatine et du comte Dooku, donc ça, on arrive bien à brouiller les pistes, en fait, entre Palpatine et le comte Dooku, on sait pas trop où se placer, etc. On se demande si le comte Dooku est sincère, s'il est pas manipulé, ou si, etc., etc. Et ça, à la limite, c'est une ambiance qui me plaît bien. Le gros problème, et ça, George Lucas, de toute façon, ne sait pas raconter les histoires d'amour.
C'est
vraiment l'idylle qui naît entre Anakin et Natalie Portman et Padmé.
Et pourtant, Natalie Portman, tu sais, c'est une simple comédienne, mais elle a pas grand-chose à donner face à...
c'est vraiment Hayden Christensen. Moi, je me rappelle très bien... d'avoir imaginé qu'il aurait pu jouer dans une pub pour Golden Grams, hein. C'est vraiment ça, quoi. Il a aucune profondeur, ce mec.
Il a pas de charisme.
Il a aucun charisme. Et d'ailleurs, là, pour le coup, moi, je me demande vraiment comment Padmé fait pour tomber amoureux de ce mec-là. C'est vraiment, tu te dis, mais bon sang de bonsoir. Je veux dire, ce mec-là, il est complètement cintré. Et est-ce qu'elle va tomber amoureuse? Et pourquoi elle tombe amoureuse de lui? Je veux dire, il raconte n'importe quoi. Il est dictatorial alors qu'il parle. Et je m'en rappelle très bien. La scène du pique-nique dans les prés sur Naboo
avec les
espèces de vaches géantes là, mais on se dit parfois, enfin, moi je me suis posé la question, est-ce que c'est pas un stagiaire ultra mal payé qui a fait cette scène, quoi? C'est pas possible, moi j'imagine bien le début quand ils arrivent, donc t'as toute l'équipe de tournage qui arrive sur les prairies, quoi. Ils disent bon alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, le mec qui lit le scénario il fait ah ouais, quand même.
Ah ouais. C'est pour le DVD, c'est un bonus. Non, c'est
voilà,
pas
c'est donc c'est assez terrifiant. Et voilà, donc il est en train de parler à une députée quand même, enfin un sénateur. Et donc il lui dit, moi je pense que la dictature c'est bien. En gros, il lui dit ça,
mais,
quoi.
Mais tu vois, je suis totalement d'accord dans le sens où tu peux te dire, mais franchement, ils ont rien en commun, quoi. Elle est pour la République, lui pour la dictature. Mais bon, c'est pas grave, passons.
Mais voilà, quoi. Elle a donné sa vie à la vie de la vie politique de la galaxie. Et non, il y a un péteux qui a 10 ans de moins qu'elle, qui vient lui dire, moi je suis pour la dictature. Ok, c'est pas grave, on s'aime quand même, quoi. Donc ça, c'est un peu dur, quand même. C'est vraiment très très dur. Mais pour contrebalancer ça, parce que bon, cette scène, de toute façon, elle est mauvaise, elle est ratée, c'est-à-dire, c'est même honteux, je veux dire, quand on fait ça. Le pire, c'est le rodéo. Je suis en rodéo sur les vaches, et là, c'était terrible. Et puis, surtout, le passage, juste après le rodéo, tu sais, au moment où t'as Anakin qui tombe, et donc, avec la petite musique, en plus, John Williams en a donné, tu vois, donc, de la petite musique qui fait, et donc, t'as pas de mec qui fait, oh non, elle a vraiment peur, quoi, et puis, en fait, ah non, c'était une blague. On est où là? Là, on est vraiment dans Golden Grams, quoi. C'est pas possible. Mais bon, pour contrebalancer cette scène, donc qui est vraiment extrêmement mauvaise, il y a une scène qui est extrêmement bien réussie. Vraiment, je dis extrêmement bien parce que vraiment, c'est une scène que j'aime beaucoup. C'est la scène en fait où il y a Anakin qui revient. Et là, il y a vraiment. C'est ça que j'aime bien parce que là, je vais encore parler de l'ancien Star Wars, mais il n'y a pas vraiment besoin d'être fan de Star Wars pour aimer cette scène. C'est que vraiment, donc t'as Anakin Skywalker, donc qui vient, donc c'est juste après qu'il ait tué en fait les pillards Tungsten, donc les hommes des sables, parce qu'ils ont tué sa mère, etc. Donc en fait, il revient dans la ferme de Wen. Il se retrouve dans l'espèce de garage d'atelier, et il avoue donc à Padmé qu'il a tué tous les pillards du village, les femmes et les enfants, etc. Et là, on sent vraiment le mec qui perd pied. Mais pas seulement en fait le mec qui devient fou, mais le mec qui perd pied en fait, qui sent. D'ailleurs, il le dit, il fait la référence.
Il dit,
voilà, oui, mais en fait, c'est surtout ce que je voulais dire, c'est que c'est Obi-Wan qui. Il dit, oui, c'est Obi-Wan de toute façon qui m'empêche de, il me frustre. C'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui est frustré dans cette scène-là. On voit très bien, il est frustré parce qu'il se sent très puissant, et d'ailleurs, il l'est. Et en fait, il a vraiment l'impression qu'on le bloque. C'est vraiment un adolescent là pour le coup. Je trouve que la métaphore est bien faite. Et donc, il avoue son crime horrible, voilà, il a tué tout le monde. Et donc, on entend le thème de l'empereur qui est vraiment, là, pour le coup, c'est très très bien choisi. Et donc, il se met à pleurer parce qu'il dit d'ailleurs, oui, je sais que je vaux mieux que ça. Et vraiment, c'est l'homme frustré. Et là, il y a le côté protecteur de la femme, justement, qui vient voir.
Tu peux le comprendre, il se met dans un stade de faiblesse, finalement.
Exactement.
Et donc, elle vient le rassurer, et là, tu peux croire à cette alchimie-là.
Et là, t'y crois vraiment beaucoup. Et ça, c'est vraiment. Et ça,
il fait plus pitié qu'il n'a pas de charisme.
Exactement. Il n'a pas de charisme. Et là, pour le coup, justement, ça sert. En fait. Ça le sert finalement le film, parce qu'effectivement, on voit. Mais c'est un pauvre mec, quoi. C'est horrible ce qu'il a fait, mais c'est un pauvre mec, quoi. Il est frustré. Il sait pas où se foutre. Il doit se contrôler, mais il n'y arrive pas, etc. Et donc, finalement, on a un peu de peine pour lui. Et d'ailleurs, on peut comprendre effectivement pourquoi Padmé va vers lui. Et dans l'épisode 2, il y a quelque chose en fait. Donc ça pour le coup, George Lucas a avoué qu'il l'avait pas fait exprès. Mais c'est justement quand il va chercher sa mère en fait chez les hommes des sables.
Ouais.
En fait, on voit les deux ombres de Padmé et Anakin qui s'enlacent, s'embrassent. Et à ce moment-là, l'ombre en fait qui porte sur la ferme en fait, ça représente, enfin ça fait vraiment penser à l'ombre de Dark Vador. Et c'était pas du tout fait exprès.
Là, pour le coup,
c'est, là, on n'a pas eu George Lucas qui a dit, ah, mais si, c'était fait exprès, oui, bien sûr. Non, il a vraiment avoué, c'était pas, enfin, je sais pas qui l'a dit, mais ils ont vraiment avoué que c'était pas fait exprès. Voilà. Et, bah voilà, mais enfin, en tout cas, moi, pour l'épisode 2, il y a d'autres choses que j'ai apprécié, mais vas-y, François.
Bah, moi, l'épisode 2, moi, je te dis, c'était, je me suis dit, ah, c'est mieux, l'ambiance est mieux, Obi-Wan a de moins se faire chier.
C'est vrai.
Il fait un 2-3 blagues de plus. Mais pour moi, c'est vraiment dans l'épisode 3 où t'as l'impression qu'ils ont fait deux essais pour être à l'aise, vraiment. Au moins pour Obi-Wan.
Mm-hmm.
Obi-Wan, pour moi, l'épisode 3, il vaut beaucoup grâce à Obi-Wan. C'est plus le même personnage, par exemple.
Ah oui, non, c'est vrai.
Il fait des blagues, il est, c'est une sorte de mec qui prend des risques, et tu dis, ah là, là ce personnage-là, ok, je le jouerai.
Mais c'est vrai que, pour le coup, dans l'épisode 2, c'est encore assez hésitant. Bon, on a l'arrivée d'Aiden Christensen, en fait, qui casse un peu qui gâche un peu le jeu d'acteur. Vraiment, parce que quand on pense à l'épisode 2, on pense à l'apparition d'Aiden Christensen, forcément, c'est le héros. Et donc, malheureusement, ça gâche un peu les autres personnages, qui, pour le coup, font pas forcément mauvais. Mais c'est vrai que dans l'épisode 3, effectivement, on voit qu'Obi-Wan Kenobi, enfin, que, donc, Ewan McGregor est beaucoup plus à l'aise. Et donc, effectivement, là, il y a vraiment le retour, dans l'épisode 3, il y a vraiment le retour du Star Wars comme on l'aime, et puis même pas forcément du Star Wars comme on l'aime, mais du film comme on l'aime. C'est-à-dire que la première scène est vraiment excellente.
Voilà. Moi, l'épisode 3, il y a plein de reproches, mais il se passe des trucs. Simplement. Il se passe vraiment beaucoup de trucs.
Bien sûr. C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses, mais en fait, je dirais presque un peu trop.
Oui.
Mais, la première scène, est vraiment très bonne. C'est vraiment, il y a de l'humour. Il y a vraiment, moi, ce que j'ai adoré, c'est le racisme entre les droïdes.
Ah oui, voilà,
avec le droïde de combat qui fait espèce de sale petite astro-droïde de merde et tout.
Qui
c'est
lui
génial, ça.
Donc, et même R2-D2 a plus de
voilà, tout exactement. Plus de voilà, les échanges entre les personnes. En tout cas, on voit que ça s'est vachement bien fait. Moi, j'ai pas assez. Non, je n'ai pas assisté au tournage. J'allais dire que j'ai pas assisté, mais non, effectivement, j'ai pas assisté au tournage. Mais on voit bien que dans cette scène-là, en tout cas, ils étaient très à l'aise et ils ont vraiment eu les répliques qui sonnaient juste. Je ne sais pas si c'est eux qui les ont choisis à un certain moment, mais je ne sais pas quelle est la part d'impro, mais en tout cas, ça marche vraiment du tonnerre.
Puis très vite,
cette
en
première
plus,
scène.
C'est voilà. Drôle, c'est fun. Et il se passe très vite aussi un truc très terrible où l'empereur qui n'est pas encore l'empereur, il est empereur à ce moment-là. Non, il est empereur.
Dis-moi.
Il est chancelier suprême.
Ouais, il est chancelier.
Il ordonne à Anakin de tuer.
Exact, de tuer le comte Dooku. Moi, j'ai pas été transcendé par ce passage-là, mais c'est vrai que là, pour le coup, on voit. Enfin, disons parce que moi, j'ai trouvé que c'était un peu facile, en fait. Pour le coup, le meurtre des hommes des sables, ça se comprend tout à fait. Voilà, il a tué sa mère. Bon, voilà, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment se comprendre.
Là, t'as l'impression que c'est important, vraiment.
Mais voilà, mais le pétage de câble. Donc voilà, je tue le comte Dooku. T'as l'impression qu'il se dit oui mais pourquoi j'ai fait ça et qu'il dit oh mais tu sais t'as fait ça parce qu'il t'a coupé les bras enfin parce qu'il t'avait coupé le bras et donc là t'as Anakin qui fait ah bah oui c'est vrai voilà. Donc bon c'est pas
t'as du sang qui enfin c'est vrai que moi dans l'épisode 3 le personnage principal c'est plutôt l'empereur
oui
ce personnage là
oui bien sûr mais le problème c'est que il est vraiment enfin Ian McDiarmid pour le coup. Moi j'aime bien Ian McDiarmid
mais hein, il est méchant.
Mais en fait voilà, il est trop et puis il est cabotin. Hein. C'est les passages où tu le vois donc le combat donc contre Mace Windu où
terrible,
il est en gros plan.
Horrible,
et donc
oui,
en fait c'est surtout le cabotinage quand il commence à faire des enfin vous le voyez pas là l'image parce qu'il y a pas d'image mais bon c'est mais bon voilà, il fait des grimaces comme ça toujours en permanence voilà il commence à marcher comme une araignée etc et tout comme ça bon c'est bizarre quoi c'est du cabotinage à la Ian McDiarmid. Je pensais pas qu'il était comme ça mais bon voilà nous le découvrons sur la fin de vie peut-être c'est qui sait mais donc bon l'épisode 3 il y a donc moi ce que je pense vraiment c'est que voilà donc la première scène est vraiment très bonne voilà donc avec l'atterrissage du vaisseau avec Anakin qui dit en version américaine, je sais pas ce qu'il dit en version française, j'ai pas vu en version française, non, j'ai rien à comprendre, en fait. Mais non, je plaisante. Mais donc, il dit, we lost something, tu vois.
Oui, alors,
ils ont perdu la moitié du vaisseau, il dit, we lost something. donc, c'est vraiment très bon, ça marche direct. Et la scène est vraiment très très bonne. La scène que j'aime beaucoup, et qui est vraiment bien faite aussi pour le coup, c'est la scène de l'opéra. Ah oui. La scène de l'opéra est vraiment excellente.
C'est une scène en plus qui n'a rien à voir dans Star Wars.
Exactement.
Pour le coup, c'est une création originale.
Il raconte le conte 6 de Darth Plagueis Wise, je crois qu'il s'appelle. Enfin bref, et donc
il a trompé la mort.
Voilà, exactement. Et donc là, on voit vraiment que Anakin est très intéressé parce qu'il se dit.
Il se passe des trucs dans le fond. Voilà, pour le coup, c'est de la vraie mise en scène.
Exactement.
Il raconte un truc qu'on ne voit pas, mais qui est vachement intriguant. Et derrière, il se passe un truc mais totalement chelou.
Super bizarre, avec des bulles, des trucs comme ça. On sait pas quoi. Il y a une musique qui est très glauque, qui est très lancinante, comme ça. On sait pas, c'est très étrange. Mais elle est vraiment très bien faite. Ian McDiarmid, pour le coup, là, c'est vraiment une leçon d'acteur. Là, il est vraiment très, très bon.
Il fait « There is other ways ».
Exactement. Il est vraiment très, très bon. Vraiment, le duo marche bien. Pour le coup, et donc ça c'est vraiment agréable. Le gros problème de l'épisode 3, c'est qu'il a voulu trop en faire. Il a voulu, notamment comme tout à l'heure dans l'épisode 2, bon, on en reparlera pour Boba Fett d'ailleurs, mais dans l'épisode 3, il s'est dit je vais mettre les Wookiees. Je vais mettre la planète des Wookiees.
Ah mais ça c'est.
Mais pourquoi est-ce que tu veux mettre la planète des Wookiees, George Lucas? Ça sert à rien.
Mais c'est pas à la limite, avec la planète des Wookiees, d'accord.
Mais que ça serve le propos.
Non, mais c'est carrément Chewbacca.
Ouais.
Histoire de et c'est là
où il y a Chewbacca.
C'est là tout le problème d'après-quelle et ça par rapport à Boba Fett, ça revient là-dessus, c'est que tu vois pas à quel point il voulait raconter une histoire, vous faire plaisir aux fans.
Exactement.
Et il n'arrive pas à faire les deux en même temps.
Il a pas réussi. À mon avis, il a vraiment voulu faire les deux. Enfin, j'imagine que c'est ça. Et qu'effectivement, il a fait du fanboyisme de très mauvais goût d'ailleurs sur certaines chaises. Notamment, le choix de mettre Kashyyyk absolument comme ça, qui vient comme un cheveu sur la soupe. Bon, ok, super, voilà, Kashyyyk, moi je te fais une planète avec 3 Y dans le nom, ça fait exotique, t'aimes bien voir les Wookiees, tu les vois faire Tarzan, bon, d'accord, mais bon, c'est du fanboy, moi je trouve de vraiment mauvais goût.
Du fanboy
T'es fanboy. Tu connais pas fanboy?
Je vais dire,
raconte. Quand t'es fanboy...
Ah, du fanboy, le fatboy.
Non, du fanboyisme, du
fanboyisme. Tu veux juste un plaisir au fan.
Voilà, exactement.
C'est de la démagogie.
Voilà, François le dit beaucoup mieux que moi, c'est de la démagogie pour les fans, effectivement. Voilà, c'est de la vraie démagogie, non, vraiment. Et donc, pour le coup, c'est vrai que, voilà, donc là, pour le coup, on peut même prendre... vis-à-vis de tous les épisodes, enfin des épisodes 1, 2 et 3, il y a vraiment de la démagogie pour les fans, notamment je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent Boba Fett, mais je pense vraiment je pense que tout le monde l'adorait parce qu'il était mystérieux, parce qu'on le voyait pas beaucoup, parce qu'on pouvait imaginer plein de choses dessus. Faut quand même d'ailleurs c'est incroyable parce que Boba Fett, moi qui suis un grand fan de Star Wars, je connais toutes les répliques de Boba Fett, c'est-à-dire qu'il y en a 3 dont une où il rigole quoi. Donc c'est vraiment il dit rien. Vraiment rien du tout.
C'est à peine un personnage.
C'est à peine un personnage, mais le truc c'est que voilà, tout le monde connaît le nom de son vaisseau. Le Slave One, mais bon, tout le monde connaît le nom de son vaisseau. Enfin voilà, c'est le truc. Alors qu'il y a 2 plans sur lui, quoi. C'est tout le monde. Il y a eu des BD qui ont été faites sur lui, des histoires, des romans et tout. C'est un truc de fou. Alors qu'on on l'entend parler 3 fois. Mais alors, le truc, c'est que voilà, moi je suis pas super fan de Boba Fett, mais je comprends très bien qu'on ait plus aimé Boba Fett parce que voilà, il est mystérieux, il est sympa, tout ça. Mais voilà, mais quel est ce choix d'avoir voulu absolument. Voilà, bon, bah voilà, Boba Fett, il est connu, donc résultat, on va en faire un personnage. Mais c'est même pas qu'ils ont en fait un personnage important, c'est qu'ils ont en fait un personnage central, non pas de l'épisode 2, mais de tout l'univers Star Wars, vraiment, puisqu'ils en ont fait le mec ils ont décidé d'en faire le mec qui allait avoir le visage de tous les Stormtroopers. C'est quand même énorme, parce que je veux dire, la guerre des clones, on l'attendait depuis 77, on se retrouve donc en 2002, oui, avec donc voilà, et on décide, bah écoute, voilà, les Stormtroopers, t'as jamais vu leur visage, mais moi je te le dis, ils ont tous le visage de Boba Fett. Ah ouais,
Ce que je disais tout à l'heure, ce que moi j'aimais bien dans la première trilogie, 4, 5, 6, dans les Stormtroopers, c'était que souvent ils étaient très cons, les Stormtroopers. Ouais. Ils étaient très manipulables, ils parlaient de trucs, ouais, salut, ça va, machin. T'avais vraiment l'impression que c'était des mecs comme tout le monde pourrait être des Stormtroopers.
C'est des agents de sécurité.
Voilà, c'est le boulot que tout le monde pourrait avoir,
parce
que ça paye bien.
Exactement.
Et ça rend l'univers beaucoup plus cohérent. Et ça, voilà, finalement, c'est même, ils sont pas maléfiques, ils sont
voilà,
des fonctionnaires.
Ouais,
et Et là, le fait de dire oui, mais non, en fait, c'est tous des Boba Fett, Jango Fett,
c'est tous des mecs manipulés génétiquement,
qui,
etc.
Qui naissent dans une cuve. Et là, d'un coup, tu dis ouais, mais ça rend l'univers beaucoup moins intéressant.
Alors, c'est vrai qu'on était au courant que c'était des clones, mais encore, on était au courant.
Bah, il parle de la guerre des clones.
Il parle de la guerre des clones, donc disons que c'était c'était quand même prévisible. Mais bon, mais mis à part ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression de fonctionnaire, de flics, de d'agents de sécurité qui parlent entre eux, voilà, ils déconnent. D'ailleurs, dans l'épisode 4, on les voit parler. Est-ce que t'as vu le nouveau machin?
Oui, voilà.
Ça, machin. C'est super, quoi. Voilà, c'est des fonctionnaires, quoi. C'est des soldats ou des fonctionnaires, c'est comme ça. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça fait vraiment grand guignol, quoi. C'est on a tous la tête de Boba Fett, on est très très vilain. Alors, l'excuse qui a été trouvée, parce que je sens venir les commentaires, l'excuse qui a été trouvée, c'est vrai que on a beaucoup dit, voilà, au début ils avaient que des clones, mais après ils ont engagé des gens, d'autres personnages. D'ailleurs, il y a on parle de l'Académie impériale pour rentrer dans l'armée impériale, ah ouais, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a. L'Académie impériale, en fait, ils en parlent, parce que Luke Skywalker, normalement, à l'origine, il veut rentrer dans l'Académie impériale. En fait, il le dit. Moi, j'aimerais bien rentrer à l'Académie.
C'est là que j'ai fait le rapport, en fait.
Il veut être un stormtrooper. Il veut aller dans l'espace. Il veut être pilote, quoi. Et donc, d'ailleurs, ça, c'est le prototype. Ça aurait été bien pour un prototype de film raté. C'est imaginez Owen Lars qui dit à Luke Skywalker, mais vas-y, tu peux aller faire l'Académie. Voilà, c'est bien. Voilà.
Mais tu déconnes, mais ça, c'est
film terminé.
Je t'en parlerai après, hors antenne, d'un de mes projets, je crois que je me la pique, lié à ça, justement.
D'accord, ça marche. Et ben écoute, et voilà, vous saurez pas. et donc voilà. Donc effectivement, les c'est quand même un gros risque quand même pour revenir là-dessus. Enfin, d'ailleurs, moi j'ai pas été là, c'est même pas donc là c'est vraiment, moi je considère vraiment de la démagogie vraiment de mauvais goût, à savoir voilà, tu décides même de faire un personnage important, de faire un personnage qui est apprécié par beaucoup de gens, d'en faire le personnage central de toute la saga, finalement c'est vraiment ça. Bon bah c'est étrange quand même.
Mais moi, disons, c'est vrai que l'univers du 1-2-3 est très bizarre, et c'est surtout que c'est pour ça que malgré les qualités, les défauts, le gros problème, c'est l'intérêt. Pourquoi faire une préquelle? Pourquoi? C'est tout ça, c'est la démagogie du fanboyisme, parce que en gros, et bizarre, tu réponds à une attente, mais en même temps tu rends pas forcément service. C'est-à-dire que les gens, ils imaginent, le combat, ils s'imaginent plein de choses, mais ce qu'ils imaginent, c'est forcément mieux que ce qu'ils peuvent voir à la télé, même au cinéma, le gros budget, tout ça. Et donc, au final, ils font, c'est ça, hein. Et donc, c'est pour ça que un univers de background, il vaut mieux en parler et ne pas le montrer, plutôt que vouloir en montrer, parce que tu peux que des sorts. Moi, je trouve que le 3 est un bon film. Voilà, c'est moins bien que ce que tu pouvais t'imaginer.
Oui, bien sûr, mais c'est vrai que l'intérêt d'une préquelle, surtout qu'on parle de Star Wars. Je veux dire, c'est vraiment les millions et les millions et millions de fans qui ont vu ça sont fait leur propre idée chacun de la préquelle, de toute façon. Tant et si bien que je veux dire,
tout en 20 ans.
C'est voilà, en 20 ans, que je veux dire, ça faisait 20 ans qu'on attendait, ça faisait même plus de 20 ans qu'on attendait la préquelle de Star Wars. Et bon, voilà. Donc c'est vrai que c'est vrai qu'ils étaient super attendus au tournant. Ils ont voulu faire du fanboyisme, ils ont voulu faire rentrer de nouveaux fans. Ils ont fait des grosses erreurs, comme Jar Jar Binks. D'ailleurs, on n'en a plus parlé après. Je pense vraiment qu'ils s'en sont mordus les doigts. Il y a eu énormément d'erreurs, énormément de démagogie. Et ce qui en fait donc une trilogie, donc 1, 2 et 3, qui est vraiment bancale, parce qu'on a beaucoup de mal à dans un film il y a toujours des bonnes choses et des mauvaises choses, mais bon là on a vraiment beaucoup de mal à oublier les mauvaises choses, même s'il y a de très bonnes choses dans la trilogie 1, 2 et 3.
En fait, le problème, c'est que les mauvaises choses te font rappeler ce que tu préférais dans
exactement. D'ailleurs vous l'avez remarqué, c'est vrai que souvent on a dit voilà, ça c'est du Star Wars qu'on aime, ça c'est du machin, c'est du truc, et c'est vrai que on peut pas s'en empêcher, parce que c'est vrai que voilà, c'est la comparaison malheureusement est dure, c'est vrai que c'est très dur. Ce qui n'était pas le cas du tout pour les épisodes 4, 5 et 6. Quand l'épisode 5 est sorti, voilà, c'est, on le voit dans l'Empire des Rêves, les fans comprendront, parce que bon, le documentaire L'Empire des Rêves qu'il y a sur les bonus de la trilogie Star Wars, il y a Arvind Kershner qui dit, oui, mais moi j'avais pas envie de faire l'épisode 5 parce que je me disais, ouais, mais l'épisode 4 il est forcément moins bon, enfin l'épisode 5 sera forcément moins bon que l'épisode 4 parce que c'est une suite, quoi. Mais non, justement, c'est vrai qu'on a du mal à sentir, à détacher vraiment les épisodes 4, 5 et 6 d'entre eux, parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'un tout, quoi. Vraiment, on parle des épisodes 4, 5, 6, on parle c'est difficile de les détacher. Quand on parle des épisodes 1, 2 et 3, c'est vrai que...
En fait, disons que pour moi, 1, 2, 3, si tu arrives à concevoir, je sais pas si c'est une bonne chose, mais que finalement, le seul personnage principal qui mène l'action de A à Z, c'est Palpatine, en fait.
Ouais, ouais.
C'est le seul personnage principal, c'est lui qui...
Ouais, bien sûr.
Qui fait la progression, et
mais c'est vrai que t'as plus l'impression de voir le petit dictateur en 10 leçons, si tu veux vraiment quelque chose, voilà, c'est vraiment, ah, vous avez bien compris comment il avait fait pour devenir dictateur. Oui, certes, c'est vrai qu'on a compris,
mais faire
une trilogie là-dessus, c'est étrange, étrange, surtout que bon, on connaît la fin, quoi.
C'est pas comme si tu pouvais pas tout devenir, en gros. Ouais, t'as raison, c'est vraiment une sorte de guide, genre voilà comment une dictature peut naître, c'est intéressant. Mais faire 3 films là-dessus,
c'est vraiment un peu bancal, hein. Puis bon, bah voilà, pour revenir à ce qui est sympa dans l'épisode 3, c'est, il y a la fameuse scène, donc, de la transformation d'Anakin en Dark Vador, qui est vraiment très très bien faite.
Oui, la scène d'opération.
Voilà, la scène d'opération, elle est vraiment super bien faite. Avec le gros plan sur le casque qui tombe.
Tu vois comment ça s'enferme sur la caméra, et tu vois son regard, tu sais qu'il va voir ça toute sa vie.
Exactement. Et avec le chpoum, comme ça, donc, le fameux bruit du casque qui tombe, qu'on avait déjà entendu l'épisode 5. Voilà, donc comme ça, et donc avec la première respiration de Dark Vador, ça c'est du grand cinéma. Ça c'est très très bien fait, vraiment très très bien fait. Mais l'accouchement de Padmé, ça fait vraiment penser à un accouchement de chiot quand même.
Puis surtout, elle accouche et t'as le robot qui fait, elle a perdu toute volonté de vivre.
Comme
si c'était une maladie en soi.
Voilà, c'est...
Tu peux avoir envie de vivre ou pas.
C'est quand même très très grossier, donc bon, c'est... Donc voilà, mais c'est...
Et surtout, là, pour le coup, s'il y a bien un truc qui est bien de la démélodie de fan, c'est 6PO et R2-D2.
Mais oui, c'est
clair. Parce que c'est des personnages qui sont vachement bien dans le 5-6. Dans l'épisode 1-2-3, ils sont... Dans le 1, ils sont là, mais... Et tout de suite, tu viens, il y a un problème.
C'est inutile.
Il y a un problème, et ils sont là tout le temps. Et la seule façon qu'il a réussi à s'en sortir à la fin, c'est de dire, formatez-moi leur mémoire.
Exactement. Ça, pour le coup, c'est vraiment de la démagogie. Et d'ailleurs, c'est choquant. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça m'a choqué.
Que Obi-Wan, après, il recouvre les deux.
C'est dès le premier épisode, je me suis dit, déjà, ça partait mal, parce que dès l'épisode 1, je me suis dit, donc, ils ont intérêt à trouver quelque chose de béton, parce que là, déjà, ça me plaît pas.
C'est vraiment... qui est construit
par le futur Dark Vador, avec R2-D2, tout ça, machin, comment ça se fait qu'ils se rappellent de rien. Et d'ailleurs, je savais très bien, enfin, tout le monde avait imaginé, d'ailleurs, ils ont, bon, ils vont leur effacer la mémoire. Ouais, merci les mecs, franchement, ça, j'y avais pas pensé du tout, quoi, donc bon, ça, c'est très
regrettable. Mais même ça tient pas la route.
Parce
que Obi-Wan, dans l'épisode 4, il voit R2-D2, il fait, bonjour. Ça va?
Non, j'ai jamais eu un droïde. Je crois que j'ai jamais eu un droïde.
Alors c'était son droïde. Bon,
c'était son droïde. Il y a vraiment des choses qui sont très dommages. C'est vraiment de la démagogie de mauvais goût, encore une fois. Mais bon, voilà, les épisodes 1, 2 et 3, moi pour le coup. Pour ma part, je les ai achetés. je les ai les 3 en DVD, y a pas de doute là-dessus. Je les ai vus à peu près 10 fois chacun, mais bon, c'est vrai que bon, bah, c'est quand même dommage, voilà.
Pourquoi les gens ils adorent l'épisode 4, c'est parce qu'il y a l'histoire du film qui est vachement intéressante, vachement simple, vachement basique, mais aussi l'histoire du comment ils ont fait le film, comment le fait que Jean Lucas, qui était un mec qui avait eu un succès commercial et encore qui était un mec à... qui avait quoi 30 ans sur un projet que personne croyait. Exactement. C'est ça qui est attachant, c'est de voir comment il a réussi alors qu'il a plus personne n'y croyait et comment il est devenu
Voilà.
Riche et célèbre.
Le film avec les pots de yaourt, hein, quand ils ont fait la...
Mais c'est vraiment des pots de yaourt.
Voilà, c'est ça, hein, quand ils ont fait la tranchée de l'étoile noire, voilà, avec des pots de yaourt, hein, sur des tables de ping-pong. Il y a un côté très attachant à ça. Et on sent d'ailleurs qu'il y a vraiment la jeunesse là-dedans. C'est, les studios, quand la Fox est allée faire et allée voir sur le terrain ce qu'ils étaient en train de foutre ILM, donc Industrial Light and Magic, qui avait été créé juste avant par George Lucas. Quand il y a la Fox qui allait voir ce qu'ils étaient en train de foutre, parce que ça prenait du retard, ils ont vu deux mecs en train de, ils ont vu deux mecs en train de jouer au foot avec des caissons, avec un réfrigérateur comme cache de but, quoi. Donc c'est vrai que c'est voilà, c'est ce côté sympa. Donc on imagine bien la gueule des mecs qui étaient arrivés en coaster, voilà, exactement. C'était vraiment des hippies, c'était la Californie, hein. Donc voilà, c'était vraiment l'époque, en plus, des hippies. Et donc on sent vraiment ce côté jeune, justement, ce côté un peu insouciant, ouais. Et c'est ça qui est vraiment très agréable pour le coup dans l'épisode. Et d'ailleurs, côté insouciant et côté jeune et côté dynamique qu'on retrouve dans la façon de mettre en scène Leia et Han Solo,
oui,
dans l'épisode 5.
Tous les 12-20 ans.
C'était vraiment ça.
Enfin, Solo, il était un peu plus vieux, quoi, mais
il avait 30 ans, enfin, il a un peu moins, 29, ouais, je sais plus, il est né en 42, donc il avait, en 77, bon, bref, il avait 35 ans.
Ouais, il était quand même, mais globalement, il y a un côté, tout le monde, c'est un film de jeunes, surtout, mais pas de gamins. Vraiment, l'épisode 1, 2, 3, c'est bizarre, c'est que d'un côté, ça se veut être, c'est trop sérieux, et en même temps, c'est visé à un public de 12 ans.
Alors, dans l'épisode 6, il y avait quand même les Ewoks, hein.
Les
enfants étaient satisfaits, d'ailleurs, bon, c'est...
D'ailleurs, si tu as vu, les spin-offs, la planète d'Andorre, la bataille d'Andorre.
J'ai pas osé.
Ah.
J'ai pas osé.
C'est cheap.
Ouais, c'est cheap. Ah ouais, enfin, disons que, bon, comme tout le monde, j'ai sapé dessus, quoi. Pour pas dire que j'ai vu.
Voilà,
ça passe pour les Noëls avec la mélodie du bonheur et tout ça. donc, c'est les Ewoks, voilà, une série animée qui est faite sur deux. Enfin,
oui,
bref,
c'est...
Voilà, c'est quand même ça fait partie des personnages les plus cauchemardesques pour les fans de Star Wars, hein, et les Ewoks, voilà, c'est un peu dur.
Et en même temps, c'est eux qui arrivent à renverser l'Empire.
Mais c'est justement, on retrouve le côté vraiment très grossier de George Lucas, qui le dit quasiment texto dans un documentaire. Il dit, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, quoi. Merci George, super, c'est vraiment très très bon. La Fontaine revue et corrigée par George Lucas.
Moi je pense qu'on lui demande trop, parce que George Lucas, en 77, c'est un visionnaire. Mais ça n'a jamais été un génie intellectuel, tu vois. C'est un visionnaire dans le sens où il voyait le divertissement cinématographique, il était frustré de ce qui se passait maintenant, il pensait que les jeunes méritaient mieux et il leur a donné mieux, c'est génial. Mais c'est pas un génie il est cultivé normalement, il a la culture de base.
À mon avis, c'est un grand rêveur, c'est un génie des affaires.
Voilà.
Ça, c'est une certitude, c'est un vrai homme d'affaires, et d'ailleurs, de toute façon, il le dit, hein. Il l'a toujours dit, hein. Lui, il aime pas trop réaliser, lui, ce qu'il aime, c'est produire, hein. De toute façon, c'est donner de l'argent pour un film, lui, vraiment ce qu'il aime, hein. Une idée qui lui plaît, voilà, il donne de l'argent pour un film. D'ailleurs, on le voit avec Indiana Jones, hein. C'est lui qui avait tout produit, et c'est vrai qu'avec son pote Spielberg, voilà, et c'est vrai que là, ça sonne vraiment la production Lucas, et pour le coup, là, on sent vraiment qu'il a pris son pied là-dedans. Mais c'est vrai que quand il s'agit de passer derrière la caméra, là il y a plus grand monde, parce que c'est vrai qu'il est pas, c'est pas le meilleur des cinéastes qu'on puisse trouver.
Ah oui, j'ai vu dans les documentaires sur l'épisode 2, on voit les scènes de bataille et tout qui sont filmées entièrement en image synthèse, certaines scènes. Et en fait, t'as des infographistes qui proposent des plans.
Ouais, c'est ça.
Tu proposes ça. Tiens, ça c'est une dynamique de plan fixe. Et lui fait, ok, c'est bien. En gros, il prend des là où il joue quand même, mais globalement, c'est pas lui qui va dire, ok, la caméra fait ça. Et même la scène la plus visuellement la plus impressionnante dans l'épisode 3, celle où Palpatine ne se bat avec Yoda, c'est Spielberg qui l'a mis en scène, cette scène. Je sais pas si vous savez.
Ah non, ça je ne sais pas.
C'est Spielberg qui a fait le storyboard animé.
Ah oui, d'accord.
Il a dit, tu vas-y, crée-toi avec cette scène. Et cette scène, elle est vraiment.
Elle est bien. Mais alors là, encore le problème de George Lucas qui ne sait pas où soutre. C'est-à-dire que. On a eu une scène dramatique, en fait, voilà, entre les combats de frères, entre Obi-Wan et Anakin qui se battent. Et juste après, c'est vraiment juste après, hein, le plan juste après, t'as Yoda qui arrive dans la salle du trône de l'empereur, du nouvel empereur, et t'as la blague nulle avec où il fout les gardes rouges par terre, les gardes impériaux par terre. Ça casse complètement le rythme. Je veux dire, voilà, il en arrive même à faire le coup. La scène en elle-même est bien, mais disons que. Avec la scène, donc en contrepartie la scène
c'est
avant.
C'est marrant, parce que moi j'ai vu récemment, je trouvais que ça marchait bien. Moi j'étais fan d'alterner une scène de mythique avec une autre scène, bon, peut-être moins mythique, mais quand même assez impressionnante. Deux combats comme ça en parallèle, je trouvais que ça.
J'ai trouvé que ça cassait vraiment le rythme, quoi. Ça fait vraiment blague.
Qu'est-ce que t'as pensé? Moi j'ai beaucoup aimé la défaite de Anakin.
Moi j'ai trouvé vraiment très bien.
Mais parce que je m'attendais, moi je me suis dit, tout le monde sait qu'Anakin va tomber dans un volcan. Cette scène-là, connaissant George Lucas, ça va être, il va tomber hors champ et après ça sera tout. Et en fait, c'est super crade, hein, comment on dit.
Je trouve vraiment qu'il y a de très bonnes idées. Encore une fois, je veux dire, voilà, c'est le fait vraiment de faire d'Obi-Wan l'instrument direct, pas du tout indirect, hein, l'instrument direct de la souffrance de Dark Vador pendant toute sa vie, j'ai trouvé que c'était très osé et que c'était très bien fait. C'est vraiment lui qui lui coupe les deux jambes et qui lui coupe le bras et qui ne le sauve pas alors qu'il est en train de brûler dans la lave. C'est lui qui est responsable en, directement de ses souffrances, de ses souffrances physiques du moins. Et donc c'est vrai que ça c'est une très bonne idée. Mais le problème, encore une fois, et ça je crois qu'on l'a pas encore dit, c'est la montée en puissance de ça. C'est-à-dire que on a Anakin qui quitte Obi-Wan sur l'Astroport et qui dit goodbye friend qui lui dit goodbye Obi-Wan et donc la scène où il se retrouve après, le nouveau moment où il se retrouve après, c'est Obi-Wan, je suis tué quoi, tu vois. Et là pour le coup ce qui est raté aussi, c'est que c'est Obi-Wan qui sort pour le premier son sabre laser. Ça c'est dommage, c'est pareil, c'est un détail, vous me direz, mais bon, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est vrai qu'on n'y est pas du tout. Il le dit à Yoda, il dit ah non, moi je pourrais pas combattre mon frère, tu comprends, je peux vraiment pas. Et donc il suffit que Anakin délire, d'ailleurs il délire vraiment, et d'ailleurs c'est vraiment montré, on le montre déliré parce que il parle tout seul, etc. Il dit voilà, moi je suis plus fort dans ma galaxie, etc. Et là, à ce moment-là, t'as Obi-Wan qui fait ah ouais, c'est bon, de toute façon, Anakin est mort, donc maintenant je suis en train de me battre contre un site. Et c'est idiot. C'est pareil. Imaginez donc que Anakin Skywalker, donc t'as donc l'empereur qui lui dit, donc l'empereur, le nouvel empereur, qui lui dit, juste après avoir tué Mace Windu, qui lui dit dis-moi, ça y est, maintenant tu me sers, t'es mon maître, enfin t'es mon élève, t'es mon disciple, et tu vas me servir en tout point, voilà, agenouille-toi. Et donc il lui dit ah oui, je ferai tout ce que vous voudrez, tout va bien, etc. Alors que deux secondes avant il se dit mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi, tu vois, il a tué Mace Windu. Et donc il dit ouais, je ferai ce que vous voulez, maître. Et donc il lui dit ah ben maintenant tu vas porter le nom de Darth Vader, ouais, ça sonne bien, ouais, c'est bien. c'est j'ai trouvé comme ça. Bon, ça, c'est un détail, mais bon, c'est, à la limite, ça peut passer, mais c'est un peu ridicule. Oui, certainement. Mais alors, à ce moment-là, il aurait fallu le montrer un peu plus, parce que on a vu quand même pendant une heure, une scène qui dure presque une heure, je crois que c'est ça, hein, ou 45 minutes peut-être, la première scène, où ils étaient vraiment en train de délirer ensemble, quand t'as Obi-Wan et Anakin qui délirent ensemble, etc. Et après, après, une heure plus tard, donc, en gros, dans l'histoire du film, on va dire quelques jours plus tard, t'as une espèce de taré avec complètement défiguré qui lui dit bon bah maintenant Anakin tu vas aller tuer des gosses, et Anakin il fait ouais ok pas de problème, je tue des gosses.
Donc moi ce que je trouvais intéressant mais raté, c'est que son rapprochement avec le côté obscur est basé sur le fait que il veut protéger ceux qu'il aime de la mort. Et ça je me dis ça c'est l'espèce de c'est très bien fait, parce que c'est une sorte de carotte que lui met Palpatine, et tout le monde pourrait tomber dans le panneau.
Bien sûr.
Là tu te dis d'accord. Mais en même temps, ce qui est mal fait, c'est que pourquoi parce que il y a des rêves dans lesquels il voit
il avait des prémonitions
des Portman en train de mourir et donc il se dit il faut que je la protège de la mort. C'est juste ça, c'est un peu facile.
En fait oui, non, c'est très facile. En fait, je dirais que c'est très américain. Ouais. C'est très américain, c'est voilà ce côté renfermé sur soi-même. Je dis pas que c'est pas important de faire attention aux gens qu'on aime, etc. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais c'est vrai que c'est très américain dans le sens que voilà, c'est pourquoi tu vas devenir méchant? Bah, parce qu'on met en danger ceux que j'aime. Voilà, c'est tout. Et c'est pas beaucoup plus subtil que ça.
Ouais, mais quand même moi je trouvais ça assez intéressant et assez compréhensible.
Oui, non, mais c'est vrai. Mais disons que moi, je trouve que la frustration qu'on ressent dans l'épisode 2, donc justement la scène que j'expliquais tout à l'heure, que je trouvais très bien faite, je trouve que la frustration qu'ils ont utilisée pour l'épisode 2, je trouve qu'elle ne ressort pas assez pour l'épisode 3. On la voit effectivement quand on lui dit qu'il va être au Conseil des Jedi, mais qu'il sera pas un maître, qu'il sera toujours un chevalier. Donc ça, on ressent bien sa frustration, mais c'est tout. Moi, je trouve justement que le côté frustré d'Anakin était quelque chose vraiment à creuser. Oui, vous n'avez pas vu, c'est pas grave. C'est le côté vraiment frustré d'Anakin était vraiment quelque chose de très intéressant à creuser. Parce qu'effectivement, il a peur de perdre ce qu'il aime. Il a peur de perdre de voilà. Mais en même temps, ce qui était bien, c'était de voir effectivement, il disait, mais voilà, les mecs, je suis puissant, quoi, aidez-moi, quoi, voilà, c'est bon, voilà, maintenant je peux faire ce que je veux, etc. Et le fait que voilà que cette société d'ordre, donc voilà, dans laquelle il évolue, donc la société d'ordre des Jedi, les députés, etc.
Elle est plus symbolisée par la personne de Samuel Jackson, c'est lui qui lui dit à chaque fois, non.
C'est ça, exactement. Mais en même temps, je trouve que c'est pas, je trouve que ça prend pas assez de place justement dans l'épisode 3. C'est pas quelque chose qui est vraiment creusé.
Ouais, c'est un peu acquis.
Voilà, exactement. Voilà, il est frustré. Et je trouve, pour le coup, que justement, disons que ce qui me fait dire ça, c'est juste que je trouvais que quand il jouait sur le côté de la frustration, et qu'en même temps, voilà, donc il avait perdu sa mère, il était frustré parce qu'on l'aidait pas assez, alors qu'il était très puissant, ben, je trouvais qu'il s'en sortait très bien, et que justement, là, on y croyait à fond, on se disait, ah ouais, putain, lui, il va mal tourner. Et on comprend très bien pourquoi il va mal tourner. Mais le problème, c'est que le fait qu'il ait juste des rêves et qu'il se dise, ah ben voilà, j'ai peur de perdre ma femme. C'est pas pour ça qu'on va se mettre à tuer des gosses, quoi. Je veux dire, c'est, même si effectivement ça prend d'autant plus d'importance parce que c'est un Jedi. Mais très vite il va tomber là-dedans. Et donc, moi je trouve que ça, pour le coup, cette montée en puissance, en fait, ne se fait pas. Moi je trouve que, bon, on ne refait pas les films, hein, encore une fois, je trouve ça dommage.
Si, Jean-Luc Lucas le fait que trop bien, malheureusement.
Si je puis me permettre d'imaginer ce qui aurait été bien, c'est que, si on avait voulu montrer une montée en puissance, parce qu'en fait, on n'a pas vu tout ce qui se passait entre l'épisode 2 et l'épisode 3, qui est pas mal expliqué par la série Clone Wars, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, moi je trouve pas que c'est exceptionnel, mais bon, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, mais bon, moi je trouve pas ça exceptionnel. Mais bon, c'est vrai que moi je trouvais dommage, en fait, qu'on puisse pas imaginer qu'entre l'épisode 2 et l'épisode 3, tout simplement, y a des petites tensions entre Anakin et Obi-Wan, qui se disent mais pourquoi tu fais ça? Ouais, mais moi je fais ça parce que je suis plus fort que toi, etc. Tout ça, machin, des petites tensions. Qu'ils soient pas vraiment ennemis déclarés, mais qu'ils soient, bon voilà, qu'on les ait quittés à l'épisode 2 où on voit le maître, voilà, qui a un regard sévère sur son élève, et qu'on le retrouve après dans l'épisode 3, le même regard sévère, et encore même un peu plus avec des tensions, parce que justement, il est devenu chevalier. Anakin est devenu chevalier, donc ils sont presque à égalité. Donc je trouve que ça aurait été bien de faire un truc pareil. Bon, encore une fois,
en même temps, je pense là où, en gros, ce qui est intéressant, c'est la fin de l'épisode 2 et l'épisode 3, tous ces événements-là. Et je suis d'accord avec toi dans le sens où l'épisode 3, pour le coup, fait un peu dans le rush, parce qu'il y a trop de trucs.
Ouais, c'est ça.
Et l'épisode 1 et le début de l'épisode 2, finalement, ont très peu d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe dans le début de l'épisode 3 ?
Dans l'épisode 2, en fait, tu as Padmé qui est envoyée sur Naboo, protégée par Anakin.
Ah oui, t'as un attentat, oui.
Il y a un attentat.
Mais globalement, c'est vraiment la deuxième moitié de la trilogie qui est intéressante. Il aurait mérité d'être développé, on s'en fout de savoir si c'est un gamin, on s'en fout de savoir si c'est sa mère. Il y a plein de trucs qui n'apportent pas grand-chose et qui sont très périphériques, tu vois. Qui-Gon Jinn. Celle d'Amnison qui est juste là pour être un maître mais qui doit mourir. Bon voilà, enfin c'est, il se penche pas sur les vrais problèmes ou les vrais intérêts qu'on puisse avoir par rapport à Star Wars. Mais moi je suis persuadé que moi je franchement les préquels c'est une façon en fait parce, pourquoi il y a des préquels maintenant c'est parce que en gros les gens ils crachent sur les suites en disant ouais, c'est pas une suite commerciale mais en fait, préquels c'est pas commercial c'est encore plus commercial mais le problème c'est que tu peux avoir une suite tu fais la même chose mais où t'as du suspense tu peux te dire qu'est-ce qui va se passer les préquels t'as pas de suspense
non bien sûr t'as pas de suspense et c'est d'autant plus difficile et c'est vrai que faire une préquelle, c'est vrai que c'est extrêmement commercial parce que tu peux être sûr que tout le monde va aller la voir ta préquelle. La suite, c'est pas une certitude, mais la préquelle, tout le monde va aller la voir. Enfin, tous ceux qui ont aimé le précédent, ils vont aller voir la préquelle, c'est une certitude. Parce qu'ils ont envie justement de concrétiser ce qu'ils ont imaginé pendant des années. Donc c'est vrai que la préquelle, de toute façon, c'est pas très habile. C'est symbolique du manque d'idées quand même pour ce qui est dans le monde du cinéma en ce moment et du manque de créativité. C'est vrai que de toute façon, c'est vrai que on a attendu les épisodes 1, 2, 3. Le fait est que l'épisode 4 a été fait avant l'épisode 1, donc bon voilà, c'est comme ça, on fait pas l'histoire. Mais bon, c'est vrai que le principe de la préquelle même, de toute façon, c'est vrai que est casse-gueule de toute façon. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écueils que George Lucas n'a absolument pas évité. Et c'est bien dommage.
Mais bon, on reste fan de Star Wars.
On reste grand fan de Star Wars, bien évidemment. On a voulu vexer absolument personne. Mais, voilà, on a juste voulu donner notre avis de grand fan de Star Wars.
Bah écoutez, merci de nous avoir écoutés pendant toute cette heure de.
S'il reste des gens à nous écouter.
S'il reste des gens, voilà, je n'ai pas endormi. Voilà quoi, vive Star Wars quand même et à bientôt sur
Fringe Nerd. Ouais, à bientôt sur Fringe Nerd. Soon I'm gonna be a Jedi. We were singing, my, this here Anakin guy. Maybe Vader someday later, now he's just a small fry. He left his home and kissed his mommy goodbye, saying soon I'm gonna be a Jedi.